Bonjour. Je ne sais pas si, comme moi, vous êtes parfois un peu frustré parce que le monde autour de nous ne connaît pas Dieu. Alors, souvent, quand on parle de Dieu comme ça, à des collègues ou des amis, ils ont une définition de Dieu. Mais c'est une définition qui leur est propre en fonction des éléments qu'ils ont. Dieu, c'est le bon Dieu dans les nuages, c'est le Dieu de la religion, toute la culture peut-être catholique, voilà, c'est toujours ces choses-là. Et si vous lisez la Bible régulièrement, Dieu pour vous, c'est quelqu'un d'autre. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien faire des survols. Alors, je vous propose ce matin un survol. Un survol de la première partie de Daniel. Découvrir Dieu pour naître de nouveau. Découvrir Dieu pour naître de nouveau. La première partie du livre de Daniel, elle raconte une histoire. Et pour faire simple, il y a deux acteurs principaux. Le serviteur de Dieu d'un côté et le non-croyant de l'autre. D'un côté, l'enfant de Dieu, Daniel et ses trois amis, représentant l'Israël, peuple de Dieu resté fidèle, et de l'autre, le roi d'une nation païenne, l'empereur de l'empire néo-babylonien, le fameux Nebuchadnezzar. L'homme de Dieu devant l'homme sans Dieu. Ces quatre premiers chapitres de Daniel montrent l'évolution d'un Nebuchadnezzar qui découvre Dieu et qui évolue petit à petit. Alors, chapitre 1 et 2, un Dieu qui se révèle à toi. Chapitre 3, un Dieu qui est plus fort que toi. Chapitre 4, un Dieu qui t'a tout donné. Chapitre 1 et 2, un Dieu qui se révèle à toi. On est environ en 600 avant Jésus-Christ. Le grand empire assyrien vient de tomber. Le roi du pays de Babylone, qui est plus à l'est, se retrouve libre du coup, avec une immense région sans réelle influence, et il n'a qu'à se servir. Il envoie son fils asservir les poches de résistance et maintenir les frontières de son nouvel empire. Ce fils, c'est le général Nebuchadnezzar. Il arrive à Jérusalem, c'est l'extrême sud de l'Empire, un bon avant-poste devant l'Égypte. Et là, il apprend que son père vient de mourir. Alors, il doit rentrer pour monter sur le trône. Il emmène avec lui quelques jeunes hommes de l'élite de Jérusalem. Parmi eux, Daniel et ses trois amis. Ils ont grandi dans des familles nobles, restés fidèles à la loi de Dieu. C'est les plus beaux, les plus doués, les plus prometteurs, vous voyez le genre. Ces garçons apprendront les lois de ce nouvel empire babylonien. L'ancien acadien, l'ancien sumérien, voilà les langues anciennes. L'écriture cunéiforme, ils feront partie des grands savants de l'empire, à la cour du roi. Donc ça c'est Daniel chapitre 1 verset 4. Maintenant seul, ces garçons s'attachent de toute leur force à leur identité. Ils sont représentants de Dieu dans un monde sans Dieu. Alors, ils avaient 3 ans d'études, après lesquels ils se tiendraient au service du roi. Ils commencent tout de suite à affirmer leur identité et ils refusent les repas du roi, les menus du roi. Pourquoi ? Parce qu'ils sont teintés d'un culte au dieu de la mythologie babylonienne. Et ils demandent une nourriture conforme à la loi de leur dieu. Au verset 8. Loi qu'ils avaient apparemment étudiée en Israël, bien sûr, et contre toute attente, ils ont des résultats bien meilleurs que les autres. Donc ça, c'était le chapitre 1. Mais après quelques mois, le jeune roi Nebuchadnezzar commence à passer des nuits horribles. Pourquoi ? Toujours le même rêve qui le hante, mais il n'arrive jamais à se rappeler quel rêve il a fait. On est chapitre 2, verset 1. Et personne n'est capable de lui dire quel rêve il fait. Normal. Et lui donner une explication. Foudrage, il ordonne de faire mourir tous les savants du royaume, y compris tous les jeunes en formation, donc Daniel et ses amis. On est verset 12-13. Daniel, donc un jeune adolescent d'environ 15 ans, hein, il apprend que le roi veut les faire mourir. Il rentre et retrouve ses copains. Et c'est parti pour une nuit de prière à la coloc avec ses copains. Dieu lui révèle le rêve, de verset 29, et l'explication, de verset 36. Le rêve parle des empires qui vont prendre la suite après Babylone, Perse, Grec, Romain, et puis un autre mystérieux qui renversera tout ça et régnera éternellement. Voilà ce que Nebuchadnezzar tire comme conclusion de cette histoire. Je vais lire dans ma Bible, sinon ça me fera un torticolis. Chapitre 2, versets 46 à 48. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba la face contre terre, se prosterna devant Daniel et ordonna de lui offrir des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les mystères, puisque tu as pu découvrir ce mystère. » Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Nebuchadnezzar, il connaît certainement la renommée de ce Dieu, hein, le fameux Dieu d'Israël, le Dieu créateur, soi-disant supérieur au Dieu de sa mythologie. La première chose qu'il a dû avoir en tête, ce Dieu supérieur s'est révélé spécialement à eux, ce peuple d'Israël. Alors, la deuxième chose, je l'ai vu agir au travers de ses serviteurs, hein, avec cette histoire de rêve et de régime particulier. La troisième chose, ce Dieu s'est révélé à eux, leur a révélé une loi particulière et un régime qui marche pour leurs études. Ce Dieu leur a révélé les mystères de mon rêve, de mon inconscient. Ce ne sont donc pas des preuves irréfutables, mais bon, c'est suffisant pour que je croie qu'il existe. Donc, ce Dieu existe. C'est sûr, hein, les preuves ne suffiront jamais. Une foi a besoin juste d'éléments sur lesquels se baser. Ces éléments existent s'il y a une révélation de ce Dieu. Hein, Nebuchadnezzar dit au verset 48 « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. » Mais Nebuchadnezzar n'a visiblement pas tout compris encore. Il confond un peu Dieu et son serviteur. Il se prosterne devant Daniel, un gamin de 15-16 ans. D'accord ? Et il l'élève au commandement de toute la province de Babylone. Toujours le même Daniel. Bon, Dieu existe, mais on dirait qu'il adore toujours l'humain. Et on verra par la suite qu'il s'adore lui-même surtout. Et moi ? Quand j'étais à Besançon, avant de revenir sur Grenoble, là, il y a 2-3 ans, je travaillais parmi les étudiants. La plupart d'entre eux affirment être athées et ne pas avoir la foi. Or, un athée croit que Dieu n'existe pas, sans pouvoir le prouver. Donc, il a une foi. En général, quand on creuse, souvent l'athée est agnostique. Il se pose des questions. Il connaît Dieu en tant qu'idée. Un agnostique ne sait pas si Dieu existe. Par contre, il se fait plein de dieux perso, des dieux faits maison, plein de théories personnelles, sa propre mythologie pour expliquer l'existence et le monde. Un peu comme Nebuchadnezzar. Mais sans révélation de ce Dieu, comment croire qu'il existe et devenir théiste ? De la foi pour être athée, une révélation et de la foi pour être théiste. Peut-être certains d'entre vous sont venus ce matin et se reconnaissent comme étant agnostiques. Dieu existe peut-être, peut-être pas. Pour devenir athée, vous avez besoin de foi. Et pour devenir théiste, vous avez aussi besoin de foi. Vous pouvez rester agnostique. Mais bon, sans révélation particulière de ce Dieu, vous vous fabriquerez un système fait maison qui n'est vrai que selon votre foi, basé uniquement sur vos raisonnements, forcément issus de d'autres influences extérieures. Une foi n'aura jamais suffisamment de preuves, mais des éléments sur lesquels se baser. Un athée ne peut pas avoir de révélation d'un non-dieu, d'un dieu qui n'existe pas. Moi, par contre, pour devenir théiste, je vous propose la révélation de la Bible. D'ailleurs, s'il y en a que ça intéresse, je fais des survols de la Bible depuis quelques années. Vous venez me voir à la fin. On peut en commencer un. Chapitre 3. Un Dieu qui est plus fort que toi. Quelques années plus tard, Nebuchadnezzar convoque tous ses hauts fonctionnaires à une fête un peu plus loin dans la vallée, après Babylone, et tous les hauts fonctionnaires sont rassemblés là. Donc, forcément, aussi les trois amis de Daniel, à qui Daniel avait remis l'administration de la province de Babylone. Nebuchadnezzar a fait dresser une statue d'or haute de 25 mètres pour l'occasion. Pour montrer leur dévouement et leur fidélité au roi, ces hauts fonctionnaires, un signal donné, devaient adorer cette statue. Les trois amis de Daniel, cette histoire est assez connue, ne s'exécutent pas, ils n'adorent pas la statue. Et le roi leur demande « Quel est le Dieu qui vous délivrera de moi ?» Les trois amis comprennent le sous-entendu et confirment que leur Dieu, le Dieu d'Israël, en sera capable et qu'ils ne serviront pas d'autre Dieu que leur Dieu. Donc le roi, il applique la sentence directe, la fournaise, puissance au max. Et là, stupeur pour le roi, il voit les trois bonhommes dans le feu, avec en plus un quatrième au milieu qui ressemble à une espèce d'ange. Les flammes ne leur font rien. Il les fait sortir et, visiblement profondément marqué, tu m'étonnes, il reconnaît au final le mérite des trois amis d'avoir insisté dans leur foi et tenu ferme. Ensuite, il publie un ordre dans tout son empire de ne pas parler inconsidérément de ce Dieu, parce qu'il peut délivrer comme aucun autre Dieu ne le peut. Chapitre 3, verset 29. Nebuchadnezzar découvre Dieu, un Dieu plus fort que lui. Le chapitre 3, c'est celui de la confrontation, l'ego de l'homme contre Dieu. Nebuchadnezzar a mis au défi ce Dieu de protéger ses trois amis de son pouvoir, s'il en était capable. C'est 3, verset 15b. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? Et voilà ce qu'il tire comme conclusion à la fin de l'histoire, verset 28-29. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, lui qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont eu confiance en lui. Ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer tout autre Dieu que leur Dieu. Et voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera inconsidérément contre le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, sera mis en pièces, sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Premièrement, Dieu par rapport à moi. Apparemment, Nebuchadnezzar croyait donc déjà que Dieu existe, on l'a vu au chapitre 2. Il pensait peut-être « ce Dieu existe, mais je reste mon propre maître ». Il pensait peut-être « ce Dieu existe, mais il ne va pas m'empêcher de faire ce que je veux ». Il a donc introduit un rapport de force entre lui et Dieu. Dieu par rapport à moi. Deuxièmement, il a dû reconnaître que Dieu est plus fort que lui. Dieu a réagi avec un miracle incroyable au défi qu'il lui a lancé. Et Nebuchadnezzar a vu qu'il était impuissant par rapport à ce Dieu. Donc, troisièmement, je respecte Dieu. C'est une vraie crainte de ce Dieu supérieur et créateur qui s'empare de Nebuchadnezzar. Il interdit dans tout son empire de parler inconsidérément de ce Dieu, dans tout son empire. Et il dit même « Béni soit ce Dieu », 3 verset 28. Son cœur est à présent favorable à ce Dieu. Serait-il devenu craignant Dieu ? Et moi ? Encore une fois, je ne sais pas où on en est tous dans notre cheminement. Croire que Dieu existe est une chose, être théiste. Croire que ça me concerne personnellement, on appelle ça être craignant Dieu, en est une autre. Je prends un exemple. Est-ce que vous croyez dans l'existence des volcans ? Oui. Qui ici a déjà vu une éruption de volcan ? Pas en vidéo, hein, en vrai. Les Colombiens là derrière. Ok, pas beaucoup. Donc en général, on n'a pas vu de volcan exploser. Mais on croit que les volcans existent, qu'ils explosent, parce qu'on a une révélation, des reportages, des images, des photos. Donc voilà, la plupart d'entre nous, on est théistes de volcans. D'accord ? Pas forcément craignant volcan. Cet été, on était en Islande avec Joséphine et des amis, et du coup, j'ai été personnellement confronté au volcan, au vrai risque d'éruption. En fait, comme Nebuchadnezzar était confronté à Dieu. Un exemple, quand on a loué un 4x4 là, pour faire un peu rentrer dans le pays et tout, on devait prendre une assurance, il y avait une partie assurance éruption poussière de volcan. En fait, c'est simple, à partir de ce moment, j'ai eu un rapport particulier avec le volcan. J'ai dû choisir. Est-ce que je suis craignant volcan ou pas ? Bon, au final, j'ai pas pris l'assurance, hein. Bref. La Bible présente un Dieu qui est parfait et bon par rapport à un être humain qui est imparfait et mauvais. La Bible présente un Dieu qui ne tolère pas l'imperfection. Et toi, tu fais quoi ? Tu l'ignores ? Ou tu le crains. Et toi, par rapport à ce Dieu. Chapitre 4. Beaucoup d'années plus tard, Nebuchadnezzar est maintenant à la tête d'un empire bien consolidé. Il a passé beaucoup de temps sur les batailles aux frontières et le reste du temps à construire de magnifiques cités, Babylone, à l'image de la gloire de son empire. Une nuit, il fait un rêve qui le glace à nouveau d'effroi. 4, verset 2. Il a vu un arbre. Bon, jusque-là, c'est pas bien méchant. Imaginez, un arbre gigantesque, plusieurs milliers de mètres de haut. Un peu comme le Mont Blanc, vous le voyez, de centaines de kilomètres par temps clair, super loin. Un feuillage splendide, abondant, des fruits à l'infini, cet arbre nourrissait la terre entière, c'était le centre du monde. Cet arbre était la vie, c'était le bonheur et la paix. Cet arbre, c'était comme la gloire de Babylone, comme celle qu'avait construit Nebuchadnezzar. Et puis tout à coup, dans son rêve, un ange descend. Il hurle avec une profonde gravité d'arracher les branches, d'éparpiller les fruits, de ne laisser que la base du tronc et des racines en sol dans des entraves de chêne en fer. Ensuite, cet ange, il explique pourquoi. Pour que tout être vivant sache que Dieu, le seul vrai Dieu, le Créateur, domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il veut et qu'il peut y élever le plus vil, le plus bas des hommes et que n'importe quel roi n'a donc aucun mérite. 4, verset 14. Nebuchadnezzar convoque donc de nouveau sa troupe de devins, magiciens, etc. pour avoir une explication de ce rêve. Mais ils en furent tous incapables. Le dernier à passer devant le roi, c'est le chef de tout cela, c'est Daniel, merci. 4, verset 5. Daniel commence par confirmer au roi que cet arbre, c'est bien de lui qu'il s'agit, le roi de l'empire néo-babylonien, le roi qui est devenu grand et puissant, dont la grandeur s'est accrue au point d'atteindre le ciel et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. 4, verset 19. Daniel continue et confirme la sentence de Dieu. Nebuchadnezzar sera chassé du genre humain et vivra comme une bête. Daniel continue par expliquer l'ordre de laisser le tronc. Il restera en fait une lueur d'espoir. La royauté reviendra à Nebuchadnezzar quand il reconnaîtra que Dieu donne la royauté à qui il lui plaît et que du coup toute la gloire lui revient à lui. Et un an a passé, rien n'a changé. Est-ce que le roi a oublié ce mauvais rêve ? Certainement pas. Il se promène dans son palais, peut-être hein, les fameux jardins suspendus, Babylone, une des septièmes merveilles du monde, peut-être, contemplatif. Le roi s'exclame « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour l'honneur de ma gloire ?» Et à cet instant, une voix retentit du ciel et assène la sentence. Nebuchadnezzar est pris de démence, de folie, complètement fou. Il est placé au secret, en exil. Pendant de longs mois, voire des années, il rampe dans la boue, mange de l'herbe, le regard complètement absent, cheveux, barbe, longs, complètement sales. Les ongles lui poussent comme des griffes. Et puis, au bout de sept mois, on ne sait pas, dans sa folie, Nebuchadnezzar lève son regard vers Dieu. 4, verset 31. Et sa raison revient. Et il paraît avoir compris, vécu et reconnu beaucoup de choses. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre sont comme s'ils n'avaient pas de valeur. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ?» En ce temps, la raison me revint, l'honneur de ma royauté, ma gloire et ma splendeur me furent rendus. Mes conseillers et mes grands me réclamèrent, je fus rétabli dans ma royauté et ma grandeur ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Premièrement, ce que Dieu voulait que Nebuchadnezzar comprenne. Au chapitre 4, verset 22, « Que tu saches que l'être suprême exerce toute autorité sur les royaumes humains et qu'il les donne à qui il veut. » En gros, ta belle vie, c'est moi qui te l'ai donnée. Je peux la donner à qui je veux et toi, tu n'as aucun mérite. Deuxièmement, comment Nebuchadnezzar l'a compris ? Eh bien, il est devenu fou. Nebuchadnezzar ne voulait pas voir, ne voulait pas vraiment comprendre que cette longue vie passée à construire un énorme empire, civilisation énormément riche et prospère, n'avait aucun mérite. C'est Dieu qui lui avait donné ça. Dieu a dû faire mourir son esprit humain, son moi spirituel, si vous voulez, pour qu'il comprenne. En gros, sans Dieu, voilà ce qu'il te reste. Là, comme une bête. Comment il a changé de vie après avoir compris ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous relirez tranquillement chez vous, mais à cet endroit, il y a un roi célèbre de l'Antiquité qui a écrit dans votre Bible. C'est lui-même qui écrit. Il tient à transmettre un message au monde entier parce qu'il vient de découvrir une nouvelle vie avec Dieu, une nouvelle vie pour Dieu. Si on regarde au verset 33, sa vie n'a pas l'air d'avoir changé en pratique. En fait, il a retrouvé sa gloire, son royaume et sa prospérité. Si on regarde au verset 34, et puis aussi à la fin du chapitre 3, son but dans la vie, c'est maintenant de communiquer au monde entier qui est Dieu, même au-delà de son empire. Combien il est au-dessus de tout. Louer, exalter, glorifier le roi des cieux. Voilà son but. Ce verset 31 est un bijou de l'Ancien Testament. Cette vision de cet arbre a une portée prophétique qui dépasse notre cher Nebuchadnezzar. Ça parle du peuple d'Israël et de l'humain en général. Ça parle de la gloire voulue par Dieu pour Israël et pour l'homme, comme un arbre qui ne doit sa croissance qu'au Créateur en fait. Et qui brille, qui nourrit le monde entier autour de lui, à la seule gloire du Créateur. Cette vision, elle parle de ce peuple d'Israël qui est réduit à l'état de souche, enchaînés en exil et aussi de l'humanité déchue par le péché dans l'attente d'une nouvelle naissance grâce à laquelle l'être humain pourra briller pour Dieu, vivre à sa gloire. Ce verset 31 est rempli de la grâce de Dieu. Nebuchadnezzar méritait la folie à vie, en fait. Dieu lui a fait la faveur imméritée de le rétablir. Et Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il a fait, en fait ? Rien. Tout ce qu'il a fait, c'est orienter ses regards vers Dieu, au milieu de sa folie. C'est comme si Nebuchadnezzar avait vécu une nouvelle naissance, sa vie nouvelle, il veut la consacrer à la gloire de Dieu, et il publie dans le monde entier cette gloire de Dieu. Peut-être est-ce que vous vous considérez comme agnostique ou comme athée, ou même comme né de nouveau ? Mais on peut craindre Dieu, révérer Dieu, essayer de lui obéir, de le respecter sans forcément être né de nouveau, un peu comme Nebuchadnezzar. La nouvelle naissance d'un esprit nouveau passe par la mort de cet esprit, par la mort de notre moi spirituel. Et Dieu n'est favorable qu'aux personnes nées de nouveau. Parce qu'en fait, cette nouvelle naissance, elle se fait avec un esprit nouveau. C'est celui de Jésus-Christ, qui a payé par tous et qui a vaincu la mort. Si on réfléchit un peu, Nebuchadnezzar craignait Dieu mais n'était pas changé. Il craignait Dieu mais il n'était pas changé. Et moi, est-ce que je suis changé ? Encore une autre réflexion. Est-ce que ça m'arrive de me poser sur mes jardins suspendus et de contempler ma gloire, la gloire de mon empire ? Si oui, est-ce que je suis né de nouveau ? Qu'est-ce que c'est mon empire ? Une autre réflexion. Est-ce que j'arriverai à dire quand dans ma vie j'étais au sol à manger de l'herbe comme une bête ? Je veux dire, quand j'ai vu que j'étais spirituellement mort, est-ce que j'arrive à savoir qu'à ce moment-là, j'étais spirituellement mort ? Comme Nebuchadnezzar. Là aussi, est-ce que je suis né de nouveau ? Piste de réflexion. D'autres réflexions. Peut-être qu'on arrive à se dire « je suis né de nouveau ». Et c'est clair. À l'image de Daniel et de ses amis, je suis représentant de Dieu parmi des hommes sans Dieu. Ce que je disais au début, hein, dans ce monde sans Dieu. Eh bien, ces quatre chapitres sont riches en exemples à suivre pour un représentant de Dieu parmi des hommes sans Dieu. Forcément, je n'ai pas le temps ce matin de revenir en détail sur ces quatre chapitres. Mais peut-être quelques pistes d'exemples à suivre de la part de Daniel et ses trois amis. Rapidement, représentant de Dieu dans un monde sans Dieu. Ils ont une identité assumée et communiquée. Représentant de Dieu, on est représentant de Dieu et on le vit comme ça. Ils refusent catégoriquement le compromis. Ils ont une foi infaillible devant l'épreuve et une fidélité pendant l'épreuve. Ils ont un réflexe à la prière. Tout de suite, il est rentré chez lui, il a prié avec ses amis. Et ils ont un réflexe à pointer vers la gloire de Dieu. C'est pas moi, c'est Dieu. C'est pas moi, c'est Dieu. Voilà quelques pistes. Ils ont simplement vécu ça. Et vous avez vu Nebuchadnezzar, ça a mis le temps, mais il a changé. Au contact de ses représentants de Dieu. Amen.